Radio Foot International.
Olivier Prompt.
Bonjour à toutes et à tous. C'est un peu tôt, c'est vrai, pour l'apéro, ou un peu tard, c'est selon, suivant votre heure d'écoute, mais c'est quand même le café des sports. D'ailleurs, les tauliers ne s'y sont pas trompés, avec la dame ou pas, ils sont venus, ils sont tous là. Rémi Ngono, officiel, est dans la place. Bonjour Rémi.
Bonjour, et bien évidemment, contre mes adversaires, et je constate qu'un s'est déplacé, parce qu'il a déclaré forfait d'avance, et il a mis El Refé en face de moi, qui lui également va recevoir son direct pour le chaos parfait.
Gilles Verdez est là, bien plus calme, inutile de vous le dire.
Plus bonjour, sobre, bonjour.
Xavier Barret, bien sûr, également à son rond de serviette.
Oui, pas impressionné par les effets de manche de Maître Ngono. Salut à tous.
Quant au Refé, il est là en patron, alors il est certainement pas impressionné non plus.
Ah, pas du tout, mais bonjour à tous.
Quel programme ce week-end, les amis, du foot et du beau, on l'espère, attendu partout au Parc des Princes, notamment dimanche soir avec PSG-OM, bien trop pompeusement appelé classico par certains. Nous allons nous contenter de l'appeler un classique, d'autant que ces dernières années, avec l'arrivée des Qatariens à Paris, les deux clubs sont à des années-lumière en termes de budget et de niveau, mais la rencontre reste à part dans le championnat de Ligue 1. Marseille a depuis lundi un nouveau propriétaire et depuis hier, un nouvel entraîneur, Rudy Garcia. Qu'est-ce que cela peut bien changer en vue du match de dimanche? Sans doute rien, mais bon, on en parlera quand même. Autre belle affiche du week-end en Angleterre, le retour de José Mourinho sur ses anciennes terres blues. Le Chelsea d'Antonio Conte accueille le Manchester United du Special One, deux clubs qui semblent aller mieux après un début de saison pas franchement très emballant, voire décevant. Au programme aussi, en Italie, un Milan AC Juventus qui fleure bon l'hégémonie italienne sur le vieux continent dans les années 90, un choc du calcio, un classique là encore, qui pourrait avoir pas mal de goût car le Milan revient au haut niveau cette saison et pourrait relancer un calcio justement à sens unique depuis 5 ans qu'il est écrasé par la Juve. Détour en Espagne aussi où le week-end s'annonce chaud bouillant avec des matchs qui concernent les 6 premiers. Au classement, nous nous attarderons particulièrement sur l'affiche FC Séville 3e, Atlético Madrid le leader. L'occasion de dire du bien, ce n'est pas si fréquent, du français Samir Nasri, prépondérant dans le jeu sévillan. Enfin, nous terminerons par l'Afrique qui connaîtra dimanche son nouveau champion en club. Final retour de la Ligue des Champions à Alexandrie où le Zamalek du Caire reçoit les Sud-Africains des Mamelodi Sundowns avec l'espoir un peu fou de rattraper les 3 buts concédés à Pretoria samedi dernier. Allez, on y va.
Avant de commencer la conférence, je tenais à rendre hommage au coach Franck Passy. Il a été un grand serviteur de ce club pendant pas mal d'années. Donc au nom du groupe aussi, le remercier publiquement.
Super, hein, Bafé Gomis. Son nouvel entraîneur avait à peine quitté la salle de conférence qu'il en profitait pour rendre hommage, un hommage appuyé au prédécesseur de Rudy Garcia, Franck Passy. Bon, on en a déjà parlé hier dans cette émission, mais je peux rapidement vous reposer la question, messieurs, vous la posez à vous. Vous trouvez ça dur, injuste pour Passy ou c'est juste normal le foot? C'est pas les bisounours.
Alors moi, personnellement, je trouve ça normal. Je trouvais même que c'était déjà trop pour lui de diriger l'OM.
14 matchs. Hein.
Oui, même par intérim. Voilà, c'est quelqu'un qui a des valeurs, mais c'est quelqu'un pour moi dont la valeur ne s'accommode pas d'un grand club ou qui veut redevenir grand comme Marseille.
Xavier, c'est pas les bisounours, hein, le foot.
Non, mais il savait très bien ce qu'il attendait, de toute façon. Hein. Il savait qu'il était là par intérim. Bon, le nouvel entraîneur arrive. On aurait peut-être pu lui trouver un poste au centre de formation.
On lui a proposé quelque chose, apparemment. C'est ce qu'a dit le nouveau président dans la conférence de presse tout à l'heure.
Voilà, finalement, il préfère enchaîner pour rester sur la catégorie des entraîneurs numéro 1. On peut lui souhaiter bon vent.
Refé, on vous a entendu hier hein, sur la question. On va demander à Rémi ce qu'il en pense de ce remplacement, de la méthode. Bon, voilà, on est habitué maintenant. C'est pas très original, un entraîneur, ça se vire.
Ça se vire, sauf que chaque fois, il est utilisé comme une sorte de préservatif jetable après usage. Parce que j'estime quand même que quelqu'un ayant suivi la même formation que tous les autres entraîneur dans les mêmes écoles, qu'on puisse dire qu'il est un entraîneur au rabais, parce que justement, on lui accorde toujours son attention, rien que quand l'OM est dans le naufrage, sans pour autant lui donner les mêmes moyens, les mêmes possibilités, et alors à une certaine période, on va parler de l'incompétence. Mais pourquoi est-ce que vous voulez toujours juger un médecin, rien que quand le cadavre est déjà presque là pour venir constater le décès, et après, on reprend à nouveau pour dire que lui, il vient viennent tout simplement s'occuper d'un autre malade qui souffre du paludisme, de la fièvre. Moi, je trouve que à une certaine période, on regarde tout ce qu'il a eu à faire au niveau de l'OM. On ne devrait pas le virer de cette façon au bout de 14 matchs et qu'on dise aujourd'hui que voilà, il n'a pas le niveau parce que il voudrait rester dans l'élite numéro 1. Mais il y est! Il a suivi cette formation, il a cette expérience. Pourquoi devrait-il toujours être comme quelqu'un qui ne vaut pas un pesant de respect?
On aura noté que pour la première partie de cette émission, le temps de parole de Rémi Ngono est donc déjà effacé, hein, dépassé.
C'est une plaisanterie. Rémi, vous pensez sérieusement que Passy peut entraîner Marseille, Manchester United, la Juventus ou un grand club européen? C'est pas lui enlever tout ce qu'il vaut que de dire qu'à un moment il y a un seuil de compétence ou d'incompétence. Passy n'a pas l'étoffe des héros, n'a pas l'étoffe des plus grands clubs. Pour le nouveau propriétaire, quoi qu'on en pense, il y avait besoin d'une révolution, d'un signe fort qui passait par un changement d'entraîneur.
Alors on y va, à deux jours du classique donc PSG-OM, voilà le sergent Garcia qui débarque pour jouer les oraux au parc. C'est pas banal, on s'est fait plaisir. Est-ce que c'est un... Non, faites pas trop, parce que le temps de parole, vous aussi, vous allez l'avoir. Est-ce que c'est un joli coup pour l'OM? Est-ce que... voilà, on parle beaucoup de timing. Alors, je vous propose d'écouter ce que répond sur cette histoire de timing, d'abord Rudy Garcia, et puis après, on en débat.
Il n'y a pas de bon ou de mauvais timing. Quand il faut se lancer, il ne faut pas réfléchir, il faut donner le meilleur de soi-même. Avec, effectivement, un phénomène d'adaptation qui est indéniable. On va s'adapter, on va faire en sorte de montrer le meilleur visage possible dès dimanche.
Alors, qui prend la parole? On est à 48 heures, un peu plus, non, 48 heures de PSG-OM. Garcia débarque, moi, première séance d'entraînement ce vendredi après-midi.
Moi, je trouve que c'est un très bon choix, et pour l'OM et pour Garcia. Garcia, c'est clair, il n'a rien à perdre. S'il perd au parc dimanche soir, personne ne va lui taper dessus, il vient d'arriver. Il arrive en cours de saison, bien sûr, ce n'est pas idéal. Il aura le marché d'hiver pour éventuellement... un peu recadrer son effectif. Et surtout, il a a priori pas d'exigence insurmontable de la part de l'actionnaire. Il vient en cours de saison, donc il a devant lui 8 mois pour se caler, pour se jauger, pour prendre ses marques et faire la meilleure équipe possible en sachant qu'il part d'assez bas. Voilà, donc pour Garcia, c'est tout bénef. Et pour l'OM, je trouve aussi que c'est plutôt intéressant parce que Rudy Garcia, il a fait très bien jouer les équipes qu'il a dirigées auparavant, notamment Le Mans, puis surtout Lille, dont il a fait un champion de France étonnant et séduisant. Et on peut espérer qu'il arrive à adopter le même système de jeu à Marseille.
Réfé.
Bah, je pense que les diffuseurs peuvent se frotter les mains parce que CPGOM avait l'air un peu fade jusqu'à la semaine dernière. Aujourd'hui, il suscite un énorme intérêt et on peut, même si l'OM est évidemment l'outsider et le PSG les favoris, on sait que quand il y a un changement d'entraîneur, il y a parfois des joueurs qui donnent encore davantage. Il y a des choses qui peuvent éventuellement faire que ce match ne se déroule pas comme prévu. Et comme le disait Xavier, l'OM n'a rien à perdre, mais le PSG a beaucoup à perdre s'il ne gagne pas ce match.
Gilles.
Oui, c'est vrai que Garcia, c'est un bon choix. Alors, c'est pas Villas-Boas, c'est pas Bielsa parmi les entraîneurs qui étaient éventuellement libres, mais c'est quand même un très bon choix. C'est un entraîneur qui a gagné effectivement un titre ou plusieurs titres en France. C'est un entraîneur qui connaît la Ligue 1, c'est un Français. Donc voilà, au moment où on commençait à dire que ce repreneur pouvait être un peu exotique, là, il cadre son projet. Donc Garcia, c'est un bon manager. Après, pour moi, l'écueil vis-à-vis de Garcia, c'est la communication. À la Roma, il avait quand même à un moment commis le péché d'orgueil en disant on va quasiment être champion, etc.
Ce qui lui avait valu... deuxième en 2014 et en 2015.
Oui, tout en ayant dit cette fois on va vraiment jouer le titre, etc., etc. Les supporters lui en avaient beaucoup voulu. À Marseille, on est très sollicité sur le plan de la communication. Il faudra qu'il fasse attention à ce niveau-là.
Rémi, qu'est-ce que cela peut changer? On rappelle, les faits. L'OM est 12e. De Ligue 1 au moment où on se parle, à 11 points de Nice, à 7 du PSG, 3 victoires, 3 nuls, 3 défaites après 9 journées, voilà pour les statistiques. Vous l'accueillez comment cette arrivée de Rudy Garcia?
D'abord, je suis contre Gilles qui est en train de nous dire c'est un très bon choix. J'ai dit
bon choix.
Tu as dit très, on peut mettre la bande.
Non,
donc aujourd'hui, ce que je voudrais dire, c'est que c'est un mauvais choix. Pourquoi? Parce que le Lille de Garcia qui est champion, c'est cet île-là qui...
2011.
C'est avec Gervinho, c'est avec Eden Hazard, c'est avec Moussa Sow, sans pour autant oublier qu'au niveau du banc de touche, nous avons quand même Fro et nous avons Tulé de Melo. Et que nous avons encore Kabaï, que nous avons encore derrière Tchédjou avec Rami, que nous avons encore Debouchy. Aujourd'hui, on me dit que C'est qu'il est un très bon choix, mais je vais poser la question. Est-ce que Lille en Ligue des Champions a brillé? Non. Est-ce que Lille en Europa League a brillé? Non. Est-ce que Rudy Garcia a brillé avec l'AS Roma? Non. Il a été viré. Alors, on me fait comprendre que voilà donc celui qu'on est en train d'accueillir comme héros de toutes les façons, comme le dit un proverbe africain, quand une grenouille arrive dans une mare, elle se transforme en baleine.
Allez donc. Le
critère de l'entraîneur viré, il est absurde. Même Mourinho a été viré, Rémi. Même Mourinho a été viré.
Sauf qu'il a gagné la Ligue des Champions.
Il a été viré de certains clubs, en tout cas. Donc, un entraîneur viré, ça forge, une carrière. C'est presque un titre de gloire d'être viré à un moment. Tous les entraîneurs sont virés. Donc, on peut pas reprocher à Garcia d'avoir été viré dans le contexte volcanique de la Roma. Tout le monde est viré de la Roma.
Alors, Rudy Garcia, Rémy Ngono. Parlons, ou plutôt écoutons une deuxième fois Rudy Garcia sur son projet de jeu, justement.
On va tout faire pour avoir un jeu, je dirais, porté vers l'avant, donner du spectacle et du bonheur aux supporters. Ça va être l'objectif, tout en étant bien évidemment solide. Autant le premier attaquant, ça sera le gardien de but, autant les premiers défenseurs, effectivement, seront les attaquants.
Alors, c'est bien, c'est carré, hein, c'est bien huilé. Avec l'effectif actuel, a-t-il les moyens de ses ambitions ou aura-t-il les moyens de pratiquer ce jeu-là? Allez, le refait d'abord, Gilles ensuite.
En tout cas, il a le courage d'aller dans une équipe, comme le dit Rémy, où il n'y a pas des grandes stars, des grands joueurs. Il a des idées qui sont claires. C'est un entraîneur, quoi qu'en dise Rémy, qui parmi les entraîneurs français est un de ceux qui arrive le mieux à poser une équipe sur un terrain de jeu, à trouver des équilibres. Donc je vois pas en quoi ça pourrait être un mauvais choix. Trouver un entraîneur français disponible de cette qualité est plutôt un cadeau du ciel presque pour les nouveaux
propriétaires. On parle pas du choix, on parle de la possibilité qu'il va avoir de mettre en place le jeu qu'il annonce avec l'effectif qui est le sien aujourd'hui.
Ça va recruter très vite quand même. Il a dit il y aura des retouches. Pour qu'un entraîneur dise il y aura des retouches, ça veut dire qu'il y aura des
vous
modifications.
Vous y croyez vraiment? Vous pensez à dès le mois de janvier de gros moyens?
Il y aura 200 millions sur 4 ans, donc c'est forcé qu'au mercato.
Mais le président a dit ce sera surtout les deux premières années. Donc ce qui est une bonne idée, un bon choix, car en 2 ans avec 200 millions, vous pouvez quand même faire pas mal de choses.
Pour aller dans le thème de Rémy.
Surtout quand vous regardez l'effectif de l'OM, il n'est pas nullissime non plus. À mon avis, il est sous-exploité. Et de là, peut-être qu'effectivement, je rejoins ce que disait Gilles Verdès tout à l'heure, à savoir que Passy n'était peut-être pas tout à fait la carrure. Vous avez des garçons comme Lassana Diarra qui est super bon, et on sait que le problème n'est pas lié à sa qualité de joueur, mais à son contrat et à ses problèmes, la sanction, les 10 millions d'euros qu'il a reçus de la FIFA. Donc il y a devant des garçons comme Thauvin, comme Cabella qui ont du talent, qui vont vite. Il y a un garçon comme Bafé Gomis qui a besoin de reprendre du rythme de compétition parce qu'il a passé une saison blanche à Swansea. Donc il y a de la qualité. Après, il faut mettre tout ça en harmonie. Garcia, je pense, a justement toute l'expérience pour y arriver.
Alors qui peut-il faire venir déjà? À quel poste? Quels sont les manques a priori de cette équipe? Qu'est-ce qu'on peut espérer en janvier, surtout. Sachant que en janvier il y a la CAN, hein, donc il y a un certain nombre de joueurs, beaucoup même, qui seront indisponibles.
En tout cas, il va essayer de recruter des grosses pointures. Il faut se souvenir quand même que tant à Lille, Rémy soulignait, Hazard, Gervinho et d'autres, tant à la Roma, Totti, etc., il a géré des stars. Mmh. Et il y a quand même assez peu d'entraîneurs français qui savent gérer les stars et leurs égos. Donc lui n'aura pas peur de recruter pour faire jouer la concurrence à la manière d'un grand club européen.
Rémy.
Le problème, justement, quand on me dit à la manière d'un grand club européen, justement, ce grand club européen, lorsque je vois le parcours de Rudy Garcia, c'est Dijon, c'est Le Mans, c'est Lille, c'est la Roma. C'est ça un grand entraîneur européen qui a géré les stars. Vous prenez, par exemple, Totti, qui est arrivé au terme de sa période d'utilité et qui, aujourd'hui, est devenu juste un monument, ou voire bon pour le musée, et vous dites qu'il sait gérer des égos. Moi, j'ai dit aujourd'hui que ce Rudy Garcia, déjà, je ne vois pas quel grand joueur il peut attiré dans l'OM. Et aujourd'hui aussi, on va le juger comme on a jugé les Passy et consorts par rapport à l'effectif, au même effectif qu'il a. Parce qu'en même temps, Passy n'a pas eu tout ce temps-là pour pouvoir lui-même mettre un effectif digne de son nom pour qu'on puisse le juger. Donc, jugeons Garcia immédiatement comment on l'a jugé Passy.
Alors lui, si l'on a bien suivi sa conférence de presse, il est là pour construire, il a expliqué que c'est ce qu'il avait fait avec Lille. Est-ce qu'à l'OM, il va avoir le temps de construire ?
Alors, il y a lundi, l'impatience des Provençaux est connue, donc c'est moins facile qu'à Lille. Il n'a pas le centre de formation de Lille, c'est surtout ça le grand handicap, parce qu'à Lille, il a pu prendre la suite de Claude Puel, qui avait déjà lancé un certain nombre de jeunes. D'ailleurs, Rémy Ngono faisait allusion à Debuchy, à Cabaye, c'était des purs produits du centre de formation de Lille, qui ne va pas vraiment trouver à Marseille, parce qu'on sait que la carence à Marseille, c'est la formation, alors qu'il y a un potentiel humain formidable, il est mal exploité. Il va probablement aussi avoir un rôle à ce niveau-là, Rudy Garcia, justement. C'est les quelques jeunes qui peuvent monter, il va falloir les pousser. Maintenant, il a quand même de l'argent qu'il n'avait pas à Lille. Lille, il avait été champion en 2011 avec un effectif qui, je crois, avait coûté sur le plan du recrutement 15 millions d'euros. Donc, c'était une performance remarquable.
Et
donc,
il n'y avait pas aussi le PSG.
Il n'y avait pas encore le PSG, on est d'accord. Voilà. Mais il y avait quand
il
même...
Il va avoir 12 fois plus sur 2 ans.
Voilà, il y avait de la qualité. Il y avait de la formation, il avait réussi un bon mixte. Aujourd'hui, avec l'expérience acquise en Italie à la Roma, je ne vois pas pourquoi il ne réussirait pas à Marseille.
Et puis, il ne vient pas seul. Les nouveaux propriétaires ont conscience qu'en dehors de l'entraîneur, il faut un véritable directeur sportif, quelqu'un qui ait l'expérience et qui ait la dimension internationale.
Zubizarreta.
On avait parlé des Campos, on parle aujourd'hui d'Andoni Zubizarreta qui a occupé ce rôle au Barça tout de même. Je pense que c'est une manière d'agir qui est cohérente. D'ailleurs, on parle beaucoup de redonner un sens au centre de formation de l'OM. Et c'est aussi quelque chose qui montre qu'on n'est pas uniquement sur le court terme, mais qu'on pense aussi à l'avenir.
Voilà pour l'OM. Il nous reste 3 minutes avant de clore cette première partie. Je voudrais qu'on dise quand même quelques mots du Paris Saint-Germain, puisque c'est quand même PSG-OM. On ne peut pas dire que l'équipe d'Unai Emery emballe, hein, même si elle a gagné 3-0 mercredi
en Ligue des Champions. En hein.
Oui, c'est, on parce était... On est revenu hier dessus, ouais. On était tous, pour le coup, d'accord.
3 poteaux pour balle. Hein.
Oui, il y avait 3 poteaux d'un côté, 3 buts de l'autre. C'est un match important aussi pour le Paris Saint-Germain.
Ben c'est un match, évidemment. C'est important pour les supporters, au moment où on se demande si les ultras vont vraiment revenir ou pas. Ça redonne, je suis d'accord avec le réfé, ça redonne un sens à ces grands soirs du football français. On en a quand même besoin, parce que la Ligue 1, c'est pas transcendant. Donc là, voilà,
c'est
on même
va... d'un an et demi profond.
Mais oui, on va de nouveau se passionner pour ce match. On espère que le jeu sera à la hauteur, mais au moins l'intensité est là. Et le PSG aussi a besoin de monter en intensité.
Oui.
C'est un match européen pour le PSG. C'est un match européen par procuration pour l'OM qui rêve de Coupe d'Europe. Mais pour le PSG, c'est presque la continuité de la Ligue des Champions. Là. Il faut gagner ce match et il faut séduire.
Xavier ?
Oui, tout à fait. Et effectivement, pour avoir vu PSG en difficulté ce mercredi soir contre le FC Bâle, on se dit que si le PSG a des adversaires plus résistant que Nancy le week-end précédent, eh bien, ils seront obligés d'effectivement d'être en permanence à ce niveau européen qui est celui de tous les grands clubs anglais et espagnols notamment.
On rappelle que le PSG reste sur 10 victoires de rang face à Marseille. Le dernier succès de l'OM, c'était il y a un tout petit peu moins de 5 ans, le 27 novembre 2011. Le dernier nul, c'était le 7 octobre 2012. De là à croire en un exploit marseillais, Rémi, vous êtes de ceux-là ? Vous allez miser un peu ?
Je ne crois pas à un exploit marseillais, mais tout au moins, j'ai dit au moins que aujourd'hui, on risque de beaucoup regretter Blanc. Si jamais Emery, qu'on a applaudi, et d'ailleurs il n'avait jamais emballé, même avec Valence.
Il est comme Garcia, il réclame de la patience. Voilà. Hein, pas sûr qu'il en
quelle patience, quelle patience. Mais attendez, c'est pas possible. Lorsqu'on essaie de voir le jeu catastrophique du PSG, c'est pas possible qu'il puisse jouer quelque chose comme ça. Donc aujourd'hui, on se dit que le tarif normal du Paris Saint-Germain contre Marseille, c'est toujours au moins 2 buts. Alors, si lui... Il ne le fait pas, parce que c'est pratiquement ce qui existe depuis 2012. S'il ne le fait pas, eh bien, tout de suite, il aura sa tête sur le billard.
Bah, s'il gagne 1-0, ça suffit, Rémi.
Oui, d'autant qu'avec Blanc, le PSG n'a pas toujours gagné de façon très facile face à Marseille.
Mais donc c'était 2-0.
Oui, enfin.
Eh bien écoutez, on verra ça dimanche soir, 18h45, temps universel, il y aura du monde. Beaucoup de monde en tribune, un peu partout, et sans doute beaucoup de monde devant la télé aussi. Nous, restez là, restez près de votre transistor là. Ne nous lâchez pas, on vous dit au revoir juste pour 3 minutes 30. On vous promet de garder Rémy Ngono et de ne pas le bâillonner. Il sera là en deuxième partie lui aussi.
Géo. Radio Foot International.
Olivier Prom.
La deuxième partie du Café des Sports. Merci de nous rejoindre. Si c'est le cas, vous avez raté toute la première partie sur PSGOM, mais vous arrivez pour les grosses affiches du week-end en Europe. Xavier Barret est toujours là, le Réfé aussi. Gilles Verdez nous a fait l'amitié de rester. Quant à Rémy Ngono, vu qu'on l'avait bâillonné pendant la pause, on peut maintenant, on va pouvoir à nouveau l'entendre. Alors on attaque par Chelsea-Manchester United. Quand on vous dit qu'il y a du gros ce week-end, on attaque fort tout de suite. Chelsea-Manchester United, ce sera dimanche à 15h temps universel. Conte face à Mourinho, Mourinho de retour en terre blues. Je vous croise tous là. Qui? Allez,
c'est la deuxième fois là. Je vérifiais ça en préparant l'émission 11 d'Europe de Canal Plus Afrique qu'on aura tout à l'heure. C'est la deuxième fois que José Mourinho va revenir à Stamford Bridge en tant qu'adversaire. Donc c'est un moment énorme. La seule fois où il est venu, c'était en 2010, en Ligue des Champions avec l'Inter de Milan. Ouais. Et il était entraîneur de l'Inter. Et l'Inter s'était imposé à Stamford Bridge 1-0 grâce à un but de Samuel Eto'o. Et Didier Drogba avait été expulsé. Donc depuis ce moment-là, José Mourinho n'est jamais revenu à Stamford Bridge comme entraîneur. Et la dernière fois qu'il y était, c'était en décembre dernier, lorsqu'il a été viré du banc. Mais il faut voir que dans l'esprit des gens, José Mourinho, ça reste l'entraîneur de Chelsea. C'est lui qui a refait et relancé Chelsea en 2005. Qui lui a donné deux titres de champion qu'il n'avait pas eu depuis 50 ans, qui l'a amené sur la scène européenne, qui a rebâti un grand club. Il est revenu ensuite, il y a 4 ans maintenant, pour passer une année et demie difficile. Il y a 3 ans, pardon, pour passer une année et demie difficile. Et il est quand même très identifié à Chelsea. Et là, ce retour à la tête d'un autre club anglais, pour moi, c'est un moment que j'attends parce que ça va être très compliqué pour lui. Et je pense que Stamford Bridge ne va pas lui faire le même accueil que ce qu'a fait le public d'Old Trafford hier à Robin Van Persie.
Alors, on a affaire à deux équipes qui ont eu un début de saison, je le disais dans les titres, délicat, décevant, mais qui vont mieux l'une et l'autre. Hein. Chelsea est cinquième à 3 points de City et l'Arsenal, et reste sur 2 victoires à Hull et face à Leicester. Manchester United est 7e à 6 points du haut de tête. Invaincu depuis 6 matchs, hein, Manchester United. 4 victoires et 2 nuls. Gilles, ça reste quand même une affiche alléchante.
Oui, ce qui se passe en Angleterre, c'est que tout le monde va mieux parce que City qui était parti pour être champion avec
6 matchs, 6 victoires, tout d'un coup,
voilà, voilà. Donc du coup, tout le monde est relancé, y compris Manchester, qui en plus là vient de gagner en Coupe d'Europe. Donc oui, il y a une embellie. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, alors j'attends énormément de ce match, j'ai beaucoup apprécié la gestion du cas Pogba par José Mourinho. C'est un joueur dont il sait, parce qu'il suit tout, qu'il a traversé des périodes délicates en équipe de France. Maintenant, il y a une sorte de rédemption avec son but. À Manchester, ça a été compliqué aussi. Et Mourinho lui donne toute sa confiance. Pogba le récompense en Coupe d'Europe. Je trouve que c'est très intéressant. Donc, je sens un adversaire pour Chelsea, mené par Mourinho, qui sera très performant.
David Finzel, là, on se regarde, hein, je vous explique tout. Il faut mettre 50% de cachet en plus pour Gilles Verdez aujourd'hui, parce qu'il nous amène à cette interview de José Mourinho. Je vous laisse l'écouter. Ça parle de qui? De Paul Pogba.
Pour beaucoup d'entre vous, il est passé du pire joueur de Premier League à un super joueur en seulement 48 heures. Quand je dis vous, je parle des médias et plus particulièrement d'Einstein des médias. Mais la réalité, c'est que nous savons que c'est un très bon joueur et nous savons aussi qu'il a besoin de temps pour montrer tout son potentiel. Je connais très bien le football italien d'où il est issu. Je sais de quelle façon les équipes italiennes jouent. Ça n'a rien à voir avec la Premier League. Je ne dis pas que nous sommes meilleurs qu'eux, je dis juste que nous jouons différemment. Il a donc besoin de s'adapter. Ce qu'il peut faire aujourd'hui, je n'y pense pas trop, car c'est un garçon qui a plutôt confiance en lui. Il n'est pas du genre à être déprimé. Des personnes ont dit qu'il était un mauvais joueur. Ça ne l'a pas du tout fait douter. Aujourd'hui, il fait la différence, et en plus avec un but magnifique.
Ça vous fait plaisir, hein, Rémy, d'écouter votre petit José, hein, votre Mourinho Cito. Et alors, êtes-vous d'accord sur ce qu'il dit sur Paul Pogba? Parce qu'au-delà du plaisir de l'entendre, ce qui nous intéresse, c'est de savoir ce qu'il dit.
D'accord d'abord avec Xavier Barret. Je ne sais pas comment il a fait pour
être... Il faut le noter.
C'est pas possible. Si on est aujourd'hui. D'accord avec Gilles Verdez. Lui est... C'est pas possible.
Et d'accord avec moi?
Et je vois comment est-ce qu'El Ref, le seul, est capable de se...
Mais il a pas encore parlé.
C'est pas possible. Il a failli entrer sur la table. Il dit, c'est pas possible. Il fallait crucifier Mourinho. Ils m'ont trahi. Donc, aujourd'hui... Je vais quand même dire que Mourinho a toujours fonctionné comme ça, savoir lancer les joueurs. Et il faut se dire que ce n'est pas seulement le cas Pogba. Il faut regarder que même le cas Fellaini. Fellaini, c'était déjà un joueur perdu. Mourinho est revenu avec lui. Herrera était déjà un joueur perdu. Mourinho est revenu avec lui. Ça fait que lorsque vous regardez le match contre Liverpool, pratiquement, c'est eux qui sont au milieu de terrain, qui font le box-to-box et ils libèrent beaucoup Paul Pogba. Donc aujourd'hui, Paul Pogba a retrouvé presque la position qu'il avait à la Juve. Par exemple, on a revu Luke Shaw qui était déjà totalement à la réserve, qui est revenu, même Juan Mata, même s'il ne joue pas aujourd'hui, alors qu'on disait que c'est l'ennemi officiel de Mourinho, on voit quand même qu'il est là. On a dit que Mourinho n'aime pas les jeunes, mais on voit quand même que Rashford joue, voire Lingard. Donc pour moi aujourd'hui, cette équipe de Mourinho est équilibré, et comme je disais d'ailleurs en début de saison, quand il a perdu contre City, j'avais dit à Barré, j'avais dit à la RFA que vous allez une fois de plus revenir pour être d'accord avec moi, parce que Mourinho c'est comme un bolide.
Enfin, pour l'instant, Mourinho il est à 6 points, juste finalement le maillon faible de Manchester United c'est Ibra, non?
Ah, et pas que lui, il y a Rooney aussi.
Oui, mais Rooney, il joue plus. Ibra, il est là, il est toujours là, il le fait jouer. Et pourtant, Mourinho, il est homme à pouvoir dire à Ibra, bah, t'es gentil, tu vas rester sur le banc. Bah,
disons que Ibra, peut-être, est habitué à que tous les joueurs jouent pour lui. Or, à Manchester United, c'est pas exactement ce qui se passe. Mais je pense que ce sera quand même un déplacement très compliqué pour Mourinho et pour Manchester United, parce que Chelsea, où les difficultés des débuts de saison étaient plus liées à un changement complet des systèmes, commencent vraiment à tourner comme il faut. Et je pense que Manchester United aura encore plus de mal que face à Liverpool il y a moins d'une semaine. Ça va être vraiment un match qui me semble arriver un peu trop tôt pour Mourinho.
Avec Ibra ou pas?
Justement, bonne question, parce que hier, sans Ibra en Europa League, ils ont finalement bien joué, ils ont gagné largement. Alors c'était Fenerbahçe, effectivement, mais avec Ibra à Liverpool lundi soir, ils ont été fantomatiques. En 90 minutes, Manchester United a touché 6 ballons dans la surface adverse. Alors je veux bien que Rémy Ngono soit toujours dithyrambique à l'égard de José Mourinho. Pour le moment, il est en train de rechercher une assise défensive. Il a plutôt bien réussi à Liverpool, c'est vrai, puisqu'ils ont été très bons dans le pressing, dans le marquage, et ils ont pas craqué face aux Reds, mais dans le jeu offensif, pour le moment, c'est peanuts, c'est nul.
Et merci Dekia, quand même.
Ouais. On note qu'en face, il y a quand même un certain Diego Costa, 7 buts en 8 matchs, qui lui fait un début de saison tonitruant.
Mais c'est vrai, pour revenir à Mourinho, on s'est un peu emballé, donc du coup, Rémy a surfé sur cet emballement et il a prononcé des paroles qui devenaient délirantes. Parce qu'on avait l'impression que Manchester United a tous les postes contre les meilleurs joueurs du monde. C'est une bonne équipe, sans doute, que Mourinho va stabiliser, mais il y a quand même des trou béant dans cette équipe pour en faire un des protagonistes du plus haut niveau européen. C'est encore pas ça Manchester United. Il faudra un mercato hivernal, puis aussi un marché d'été des transferts pour que cette équipe, si Mourinho reste, je le pense, mais retrouve tout son lustre. C'est quand même plus un grand cadre européen aujourd'hui.
Et puis n'oublions pas un détail quand même. Chelsea a eu toute la semaine pour préparer ce match, alors que Manchester United a eu à jouer ce match qu'on évoquait tout à l'heure, et lundi face à Liverpool. Donc, deux gros matchs en 6 jours, c'est pas la même chose.
Quelques mots, l'un d'entre vous, sur le Chelsea de Conte, parce que là aussi, c'était pas terrible, et puis ça va de mieux en mieux.
Mais disons qu'il a adopté un système qu'il connaît parfaitement, c'est-à-dire la défense centrale à 3. Alors comme Zuma est toujours pas opérationnel, que John Terry commence à faire son âge, il a fait une charnière avec Azpilicueta qui est un latéral, David Luiz qui est pas forcément le meilleur défenseur central au monde, même s'il est un des plus chers, et puis Gary Cahill. Bon, ça a marché pour le moment, mais face à des adversaires moyens.
Oui, mais là, on a Terry qui revient quand même, donc ça va lui donner quand même une autre assise.
Oui, il faut l'espérer pour Chelsea, parce que c'est vrai que cette défense à 3, ça l'a bien aidé à rétablir la situation après le 3-0 pris à Arsenal. Mais pour le moment, moi, je ne suis pas encore complètement convaincu.
15h, temps universel, dimanche, Chelsea, Manchester United à Stamford Bridge. Dimanche aussi, me semble-t-il, Milan AC, Juventus de Turin. C'est un vrai choc des années 90. On se disait ça ce matin en conférence
samedi soir,
C'est samedi soir.
Olivier, c'était encore la finale de la Ligue des Champions en 2003.
Oui, mais c'est vrai que dans ce qu'on voulait dire ce matin quand on se parlait entre nous et qu'on préparait cette émission, je crois que c'est David Finzel qui rappelait ça. Dans les années 90, c'était l'équivalent de Barça-Real là maintenant. Milan-Juve, c'était quand même la grosse affiche du moment.
Oui, alors on a cité les années 90 et 2003. Donc ça fait quand même un moment, hélas. Oui. L'année dernière, la grande affiche Milan juste, c'était la finale, mais de la Coupe d'Italie. C'est plus la Ligue des Champions. C'est quand même un championnat qui se reconstruit. Pour Milan, il y a pour la première fois depuis des lustres et tant de changements d'entraîneur, une lueur d'espoir, mais c'est quand même pas le grand Milan. Alors oui, ils redeviennent compétitifs dans le championnat d'Italie. C'est très bien. Le championnat d'Italie a besoin de ses grandes équipes au maximum. San Siro sera plein, mais on attend quand même une vraie confirmation sur une longue série pour l'AC Milan. Faut pas s'emballer, à mon avis.
Ils sont deuxième à égalité avec la Roma, à 5 points de la Juve, qui est quintuple championne en titre. C'est vrai que c'est un peu un classement en trompe-l'œil, parce qu'ils n'ont que la 4e attaque, la 13e défense. Ils sont entraînés par Vincenzo Montella, qui est un ex-attaquant, on se souvient de lui.
Probablement, on évoquait les nombreux changements d'entraîneurs, c'est probablement la chance de ce Milan. C'est Montella qui a fait du très bon travail à la Fiorentina auparavant, qui est un excellent entraîneur. Et donc, il a accepté de relever le défi de Milan, ce qui n'était pas évident, parce que les entraîneurs qui sont passés ces derniers temps, que ce soit Inzaghi ou d'autres, Zeedorf, enfin, pour citer beaucoup de grands noms, ils n'ont pas vraiment eu la chance de réussir.
Et justement, je regardais les grands noms, alors sans faire injure à ceux que je vais citer, mais on ne peut pas parler de grands noms avec Suso, avec Bonaventura, avec Donnarumma, Bacca, Paletta, Romagnoli, Montolivo, Mbaignang, le français, qui est le meilleur buteur du moment avec trois réalisations.
Donnarumma, c'est le futur Buffon. Donc, attention.
Oui, futur. Mais
retenez son nom.
Buffon, en face, c'est 630 matchs de Serie A, 130 en Coupe d'Europe, 165 sélections. Et on l'a vu, mondial, véritablement, mardi à Lyon.
Il y a 20 ans d'écart, pratiquement, entre les deux. Mais non, c'est lié à la situation économique. Gilles y faisait allusion très justement. À l'époque, dans les années 90, Berlusconi et le Milan, c'était le club le plus riche du monde. Donc, il achetait les meilleurs joueurs du monde. Et d'ailleurs, il achetait pas 11 joueurs, mais ils en avaient 30. Ils pouvaient même en prêter à droite à gauche. C'est eux qui faisaient le marché mondial du football. Aujourd'hui, Berlusconi a eu beaucoup de soucis. Il a dépensé beaucoup d'argent avec les avocats.
Mais il faut quand même se dire que ce Milan-là, il est déjà entre les mains des Chinois qui également aussi ont pris l'Inter. Donc, on ne peut plus parler seulement des problèmes financiers aujourd'hui.
Oh,
oui, c'est comme ça.
Oui, mais quand même, voilà. On ne peut pas comparer avec une Juventus qui a son stade à elle, c'est qui est quand même un énorme avantage aujourd'hui et qui engrange des recettes liées notamment à sa participation à Ligue des Champions qui sont sans commune mesure avec celle d'un Milan par exemple. Donc aujourd'hui on est quand même dans un rapport financier qui n'est pas comparable. Cela dit, ces débuts de saison de Milan a un intérêt énorme, c'est que au mercato ils pourront peut-être attirer des joueurs au nom plus ronflant s'ils continuent sur cette lancée, parce que la perspective d'un retour en Ligue des Champions pourrait attirer un Fabregas par exemple. On parle de Witzel, enfin on parle de joueurs qui pourraient donner une autre dimension à ce Milan AC.
Qui reste sur 4 victoires et 1 nul. La Juve, elle, reste sur 7 victoires de rang face au Milan AC.
En 8 journées.
Et en plus, ils sont sur effectivement 7 victoires en 8 journées en championnat.
Oui, même si Lyon a perdu, je pense qu'il a montré que cette Juventus était prenable par moment.
C'est-à-dire que quand elle est moins bien, cette Juve, elle retrouve comme par miracle son Gigi Buffon interplanétaire. Allez, voilà pour cette rencontre à suivre samedi soir, donc on le rappelle. Passons à Séville Atlético, ça aussi, qu'est-ce que ça fait envie. Le troisième qui accueille le leader, c'est quand même une vraie, vraie grosse affiche, ça, Gilles.
Oui, alors, c'est une grosse affiche.
C'est dans le meilleur championnat du monde.
C'est le meilleur championnat du monde, c'est un très beau match, c'est pas non plus Barça-Real. D'accord.
Non.
Voilà. C'est le match. Alors l'Atlético peut être un des protagonistes. Évidemment, on peut être championne. Elle l'a déjà été. Elle départerait pas du tout. Mais c'est je dirais le nouveau petit classico, le match qui fait frémir, mais qui n'est pas encore pour moi au niveau des plus grands. Et puisque vous parliez d'une sorte de rédemption ou de nouvelle mise en lumière de Nasri, je suis plus prudent. C'est-à-dire que oui, il y a une embellie, mais avec lui, souvent, les embellies sont suivies de tant de déceptions que personnellement, je ne m'emballerai pas.
Rémi, ça n'est pas Barça-Real, mais vous regarderez quand même Séville-Atlético?
Je regarderai, mais également, ce n'est pas, comme on dit, le plus pauvre match. C'est vrai quand même qu'aujourd'hui, Atlético, contrairement à la saison dernière, me donne beaucoup plus une bonne impression parce que sur le plan offensif, ils sont quand même à 21 buts déjà marqués, c'est-à-dire la deuxième attaque après le Real. Sur le plan défensif, ils risquent encore de faire mieux parce que là, pratiquement, je crois que c'est seulement 3 buts encaissés.
Oui, moi, j'ai regardé, je peux vous dire, les statistiques 2016-2017, 11 matchs, 8 victoires et 3 nuls pour Simeone, donc pas une défaite, 24 buts marqués, 3 encaissés. Quand même énorme.
Voilà, donc, et de surcroît, il faut quand même se dire que les problèmes qu'ils avaient sur le plan offensif aujourd'hui, on voit que même quand Griezmann ne marque pas, il y a déjà Carrasco qui peut mettre un triplé.
Il marche sur l'eau là, en ce moment.
On voit les Gavi qui reviennent, on voit pratiquement une équipe qui a des doublures dans tous les postes, de telle sorte que ceux qui étaient même titulaires, ils n'y sont pas. Et lorsque vous regardez par exemple que Atlético, il faut quand même se le dire, l'année dernière, c'est 24 clean sheets. 24 clean sheets en
24
Liga.
Matchs sans encaisser de buts, pour parler français.
Voilà. Et en Ligue des Champions également, c'était 8 matchs sans encaisser un but. Et cette année, je trouve encore cette défense beaucoup plus rude. Donc moi, je ne vois pas comment est-ce que Valence pourra
Séville,
le faire.
Séville
pourra le faire dans la mesure où Séville dont on parle aujourd'hui, c'est quand même 15 départs. Donc, les plus importants.
L'entraîneur.
Voilà, l'entraîneur. Vous avez Klikoviak, vous avez le Gamero même qui est parti. Vous avez pratiquement même le capitaine Coquet est parti. Et c'est bien beau de me dire aujourd'hui que cette équipe avec les Vitolo, que ça marche. Mais ce sont des joueurs en prêt qui n'ont pas eu à confirmer ailleurs. Et qui encaissent beaucoup de buts. Parce qu'ils ont déjà quand même pris plus de 10 buts.
C'est la nature de Séville.
Je suis pas du tout d'accord avec Rémi. Je pense que Simeone va trouver à qui parler avec Sampaoli. C'est vrai, ce sont deux entraîneurs argentins, mais qui se sont jamais affrontés. Ça paraît incroyable, mais ils n'ont jamais eu l'occasion de jouer l'un contre l'autre. Or, aujourd'hui, je pense que Sampaoli, au niveau de l'agressivité, au niveau de l'équilibre, n'a rien à envier à l'équipe des Simeone. D'ailleurs, il a récupéré certains joueurs de l'Atlético, comme Vieto ou Craneviter. Il a envoyé en face Gamero, qui va retrouver donc le stade de Sanchez Pizjuan. Mais je pense qu'il y a vraiment match entre Séville et l'Atlético et que Sampaoli a été peut-être un changement positif pour Séville par rapport à Unai Emery.
Et Séville, qui est connue pour être l'équipe de la Ligue Europa, est en train de très bien faire en Ligue des Champions, en tout cas en phase de groupe. Ils sont au niveau de la Juve. Hein, oui. Ils sont allés gagner à Zagreb mardi. Ils restent sur 4 victoires de rang, 3 en Liga, 1 en Ligue des Champions. Ils sont en pleine confiance. Donc, bien sûr qu'ils peuvent, chez eux, enquiquiner l'Atlético.
Je pense que ce qui est intéressant dans ce match-là, c'est de savoir si Séville peut être un quatrième larron pour la course au titre en Espagne.
Celui que Valence n'est plus.
Celui que Valence ou Villarreal, par exemple, n'est plus. Donc, si le match à 3 auquel on a l'habitude maintenant peut éventuellement compter sur un quatrième prétendant ou pas. Est-ce que Séville va avoir la qualité pour vraiment bouger l'Atlético ou pas? Et ça, c'est ce qu'on attend effectivement de Séville, malgré tous les changements qu'il y a eu ces derniers temps, parce qu'ils ont l'habitude quand même de gérer ces changements. Hein, c'est toutes ces dernières années, Monchi fait des miracles dans le recrutement, mais il y a tout le temps des départs tous les étés.
Dans ce recrutement, parlons donc rapidement quand même de Samir Nasri, qui ressuscite véritablement, qui a une année, même deux saisons très très compliquées, qui arrive là et qui marque pratiquement à chaque match. Il est prépondérant dans le jeu de Sampaoli.
Oui, mais encore une fois, Nasri, ce sont pour moi à la fois des éclairs de génie dans les matchs et aussi des éclairs au long d'une saison. Moi, j'attends la longue durée. Pour moi, il y a quand même énormément de rédemption à obtenir de sa part. Il y a quand même des tâches maintenant sur lui, sur un lourd passif. Je lui pardonnerai pas si vite que ça, malgré quelques buts. J'attendrai un moment.
Rémi, un mot?
Moi, Samir Nasri me semble être comme justement son équipe, c'est-à-dire feu de paille. Parce que même quand on regarde les matchs, ça commence toujours très très bien. C'est bien que le ref me parle de Sampaoli. Mais sur le plan physique, ça finit toujours presque sur les rotules. Et quand on va rencontrer une équipe rugueuse comme Atlético, moi je dis bien qu'il n'y a pas plus d'équipe rugueuse en Europe que Atlético. Donc je ne
regardez
vois pas
bien
les petits joueurs. Mais qu'est-ce que tu es en train de dire? Mais moi, on va regarder ce match-là. Mais moi, je sais qu'ils finiront par être usés.
On va regarder ce match-là avec intérêt.
Le problème, c'est qu'il est en même temps.
Parce qu'il y a match, sans doute beaucoup plus que ce que ne veut le dire Rémi.
Oui, il y a match aussi, parce que c'est à pratiquement au même moment que Chelsea-Manchester United. Donc, il va falloir enchaîner, regarder en différé. Enfin, on va s'arranger. Non, mais ça reste vraiment, je pense, le révélateur de ce début de saison pour savoir si on aura un championnat d'Espagne à 3 ou à 4.
Mais c'est vrai que c'est intéressant, juste en deux mots, de voir, alors c'est pas une nouvelle vague, mais de voir cette confirmation au plus haut niveau des coachs argentins. C'est vrai qu'il y a là une sorte, c'est pas une renaissance, il y en a toujours eu, mais là il y a une permanence au plus haut niveau. En plus, il y a des innovations tactiques. Donc voilà, c'est vrai que l'équipe nationale d'Argentine...
Il faudrait qu'on arrive à avoir un de ces bons coachs en équipe nationale.
Exactement, c'est moins bien, mais en club, il y a des coachs argentins qui sont au plus haut niveau et qui réussissent.
On rappelle qu'il y a aussi ce week-end en Liga Valence-Barça, avec un nouvel entraîneur du côté de
Brandelli, oui,
de Valence. Et puis il y a aussi Real Madrid-Athletic Bilbao, sixième de cette Liga. Donc il y a vraiment de très belles affiches. On peut pas parler de toutes. On a choisi Séville-Atlético. On espère qu'on ne se sera pas trompé. Rendez-vous lundi avec Hugo Moissonnier pour débriefer tout ceci. Quelques mots, messieurs, de la finale. Retour de la Ligue des Champions en Afrique, même si ça semble jouer, Zamalek Mamelodi Sundowns, ce sera dimanche. Est-ce que les Mamelodi Sundowns vont bien être les premiers Sud-Africains sacrés depuis 1995? Ça fait donc 21 ans, les Orlando Pirates à l'époque. Ils ont 3 buts d'avance, on le rappelle, samedi dernier, ils ont gagné 3-0. C'est une histoire incroyable que celle des Mamelodi Sundowns dans l'aventure de cette saison en Coupe d'Afrique des clubs. Hein, on rappelle,
ils avaient été éliminés,
ils ont été repêchés, et les voilà en finale. Bon, voilà.
Ils ont su saisir leur
chance. Est-ce qu'ils peuvent le faire, les Amalkawis?
Ça me paraît compliqué. 3 buts, malgré le contexte spécial de l'Égypte, la qualité du Zamalek, je pense que ça va être très très compliqué, parce qu'il y a quand même un énorme engouement autour de cette équipe de Mamelodi Sundowns, une grosse confiance suite au résultat du match aller. Moi, je pense que ça va être mission trop compliquée pour le Zamalek.
On aime les belles histoires, Gilles. Il faudrait qu'elle se termine bien. Celle-là, elle est bien partie pour bien se terminer, mais c'est énorme.
Oui, ce serait de l'inédit quand même, une remontée de cet ordre-là. J'ai l'impression quand même que du côté du Zamalek, il y a un certain renoncement. Quand on voit les propos, les ultimes propos de l'entraîneur, je vais faire mon maximum pour remédier aux faiblesses de mon équipe. Donc on le sent un peu désabusé, on sent que s'il avait pu juguler les failles béantes dans sa défense, il l'aurait fait au match aller. Il est d'ailleurs quasiment démissionné ou démissionnaire s'il perd en finale. Donc voilà, on sent que du côté du Zamalek, cette finale, elle est presque déjà oubliée, qu'on en tirera les conséquences plus tard.
Un mot, Rémi, avant les cartons.
Il faut quand même se dire que Zamalek s'est retrouvé là vraiment aussi par surprise, parce que 5-2 et 4-0, franchement, Zamalek prend beaucoup de buts, et d'ailleurs même sa défense est aux abois, ils n'ont pas une bonne attaque, et même quand on voit le troisième but, c'est quand même leur propre défenseur qui marque contre son camp. Et lorsque je vois aujourd'hui ce qui est en train de se passer, moi je ne vois pas de miracle, d'autant plus que en phase de poule quand même il y avait déjà les Mamelodi qui avaient pris l'avantage sur eux, donc il y a cet avantage psychologique, donc ils partent pratiquement comme étant déjà morts, donc c'est des cadavres qui vont pratiquement au stade, même si leur stade parfois fait qu'ils puissent se réveiller, mais bon, ça ne sert à rien à sauver les cheveux quand le cou est déjà coupé, dit un proverbe africain.
Ah, je l'attendais. C'est le deuxième. On a signé pour 2 par émission.
Ouais,
le contrat est rempli, ouais. pas plus. Les cartons, Xavier Barret, à vous l'honneur.
Oui, eh bien moi, j'ai donné un carton vert au public de Manchester United, de Old Trafford, qui hier soir a vraiment réservé une ovation tout à fait formidable à Robin Van Persie, qui jouait pourtant dans l'équipe d'en face, donc au Fenerbahçe, qui a même marqué, qui a sauvé l'honneur pour le club turc face à Manchester United, et qui a eu droit à une ovation tout à fait formidable, égard à ce qu'il a fait quand il était à Manchester United. Je trouve que ce fair play très britannique est tout à fait remarquable.
Gilles.
Carton vert aussi à Lionel Messi. Alors non seulement je l'adore, mais en plus là il revient tout juste à être opérationnel. Il gagne à lui tout seul le match contre Manchester City en Ligue des Champions. Il marque et puis il offre à un moment un beau geste de coéquipier, un pénalty à Neymar qui ne va pas le transformer, il se rattrapera plus tard. Mais je trouve que c'est de l'altruisme, de la générosité. Il aurait pu être égoïste, il aurait pu dire « Allez, je tente mon ultime chance, encore un but pour éventuellement le Ballon d'Or ». Bon, il sait qu'il l'aura pas le Ballon d'Or, ce sera Cristiano Ronaldo. Mais je trouve que c'est un beau geste qui construit l'avenir d'offrir comme ça un pénalty à son prestigieux coéquipier.
Il y a un petit pupu, un petit solal de mes connaissances qui est tout à fait d'accord avec vous sur ce carton vert, mais je n'en dirai pas plus. Rémy Ngono, votre carton.
Con contre-attaque contre Gilles Verdez.
Ah.
Carton rouge
à Lionel Messi.
Non. Carton rouge à Pep Guardiola, qui a offert gracieusement encore cette belle victoire à Messi et au Barça. Donc, ce carton rouge est offert par Régis Alabi et Bruce Bakanda de ma page Facebook Rémi Ngon officiel, qui disent que mais c'est pas possible.
Il y a les contrats pour les deux proverbes, mais il y a aussi le contrat pour Rémi Ngon officiel.
Mais vous vous rendez compte, ils se disent quand même que mais c'est pas possible. Pep Guardiola s'est débarrassé de qui? Il s'est débarrassé de Joe Hart, le meilleur gardien anglais, pour dire qu'il fait venir maintenant bravo qui jouait pour le Barça. Vous vous rendez compte, parce qu'il était excellent pour le jeu au pied, mais c'est un gardien de handball, c'est un gardien de volleyball. Donc à une certaine période, Guardiola et Bravo ont tout fait pour tuer Manchester City. Moi je dis pratiquement on n'avait qu'à garder Hart au lieu de prendre Bravo, mais malheureusement avec Guardiola il préfère toujours les nuls par rapport à ceux qui sont assez bien, comme le dit un proverbe africain.
Ah non, pas
tu
droit.
Tu donnes les yeux à un aveugle, il te revendique les sourcils.
Je n'ai pas compris celui-là, mais c'est pas grave, je vais réécouter l'émission en podcast.
C'est très excessif sur Manchester City.
Alejandro Valente, votre carton.
Allez, carton vert à Luis Suarez, parce qu'il n'a pas marqué cette semaine, mais il a reçu le soulier d'or en tant que meilleur buteur de la saison dernière. Quand c'est Cristiano, quand c'est Messi, on en fait tout en flanc. Quand c'est Luis Suarez, ça passe presque inaperçu. Or, c'est quand même un énorme attaquant qui a connu une vraie renaissance après sa Coupe du Monde très compliquée au Brésil. Et bravo à lui. Donc, il a d'ailleurs montré aussi sa générosité qui est assez fréquente dans l'attaque barcelonaise en offrant un but à Messi face à City.
Et le carton vert de Radio Foot, eh bien, le carton, il est vert. Il est pour la belle semaine des clubs français en Coupe d'Europe. Parce que, si Lyon avait été moins branque devant le but ou si Buffon n'avait pas été Buffon, on serait presque à 100%. Deux victoires, deux matchs en Ligue Europa, c'est presque du jamais vu. Donc bravo à Saint-Etienne, Nice, au PSG pour sa victoire contre Bâle et à Monaco pour être revenu à Moscou. C'était plutôt une bonne semaine. Et vis-à-vis des clubs espagnols et russes, à lundi UEFA, c'est bon à prendre. Merci Julien Lingue. Vous retrouvez, la dame est encore en vacances, lundi et toute la semaine, Hugo Moissonnier.